Radio Campus.
Let's go.
88.3.
Ce bruit, depuis 10 ans, était devenu familier et n'intéressait même plus le public. Et pourtant, pour ce bruit, identique aux autres bruits, le monde a retenu son souffle. C'était le départ de la plus grande, de la plus fabuleuse aventure du siècle.
Média et numérique libre. Ondulation.
Ondulation.
Média et numérique libre.
Ondulation.
Ondulation.
Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Le Festival Ondulation poursuit son petit bonhomme de chemin en cette semaine. Radio Campus Orléans est au Bouillon, le centre culturel de l'Université d'Orléans, pendant 5 jours avec des émissions autour des médias et du numérique, des ateliers et surtout de la bonne humeur. On est ensemble pendant 1 heure pour parler d'éducation aux médias cette fois. Une thématique chère au cœur de Radio Campus qui multiplie les actions à destination des publics scolaires, mais aussi des citoyens dans leur ensemble, avec ce lot de questions qui accompagnent de telles actions. Comment sensibiliser aux enjeux des médias vers les plus jeunes? Comment s'adapter aux nouveaux enjeux médiatiques apportés par les réseaux sociaux? Quid de l'intelligence artificielle? Quel financement étatique pour le déploiement d'une éducation aux médias efficace? Bref, nous avons des questions et des invités pour en parler autour de la table au Bouillon. Je vais procéder par ordre alphabétique. Je vais commencer par Élodie Cerquera. Vous êtes présidente du club de la presse Centre Val-de-Loire. Bienvenue sur ce plateau au Bouillon.
Merci beaucoup, bonjour.
Oui, comment allez-vous?
Très bien.
Ça va, oui, vous êtes à l'aise, pas de problème.
Pas de problème, toujours quand il faut parler d'éducation média à l'information.
Bah ça marche. N'hésitez pas à orienter votre micro pour qu'on puisse vous entendre un petit peu mieux. Voilà, okay. Parfait, merci beaucoup. Benoît Le Serre, vous êtes secrétaire général de la DRAC Centre-Val-de-Loire, autrement dit la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien, très heureux d'être là également pour parler EMI.
Eh oui, EMI, effectivement, éducation aux médias et à l'information pour les auditeurs qui ne connaissent pas cet acronyme. Il est pourtant, on en parle de plus en plus dans les programmes scolaires aujourd'hui, donc ça va être intéressant pour nous d'évoquer cette question au cours de cette émission. On attend peut-être Valérie Martin. Ah, je la vois arriver, super, magnifique. Valérie Martin, donc professeure documentaliste au collège Jean Rostand, avec qui j'ai le plaisir de travailler autour de la production d'émissions avec les élèves de cet établissement scolaire et dans le cadre de la cité éducative. Bonjour, alors ouais, voilà, si vous entendez les auditeurs, c'est pas grave, on est en train de s'installer tranquillement. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va, désolé pour mon arrivée un petit peu tardive.
Non, mais pas de souci, vous êtes à l'heure, c'est parfait. Et puis, il n'y a pas de problème, vous êtes toujours la bienvenue, bien évidemment. Et puis aussi, je serai accompagnée de Louise Ouallet, qui était... on dit Ouallet ou Ouallette, d'ailleurs, je ne sais même pas comment je prononce ton nom de famille, pardon.
Alors, ça se dit Ouallet, donc c'est parfait.
Ok, parfait. Eh bien, Louise Ouallet, qui est bénévole au sein de Radio Campus Tours et qui nous fait le plaisir de nous proposer plusieurs chroniques sur les émissions de ce festival Ondulation. Et bien sur ce, on va commencer les hostilités. Place désormais à notre débat. Ah oui, pardon, oui, bah, je vais peut-être présenter effectivement notre autre interlocuteur. Pardonnez-moi, je ne vous avais pas noté parce que à la base...
Je me suis incrusté un peu.
Ouais. Ouais, bah, écoutez, très bien, vous êtes le bienvenu. Meng Shiv, gestionnaire assistant, pôle public et territoire pour la DRAC. Vous accompagnez notamment Benoît Lasserre sur cette émission. Merci
voilà,
à vous.
Sur l'EMI, puis sur le numérique et le fonds de soutien aux médias d'information de proximité.
Super. Eh bien, on va pouvoir aborder toutes ces thématiques en votre compagnie. Vous êtes bien sur l'émission Ondulation consacrée à l'éducation aux médias et à l'information. Bienvenue à vous.
Médias et numérique libre.
Ondulation.
Ondulation.
Médias et numérique libre.
Ondulation.
Alors je voulais commencer cette émission en abordant les liens que chacune et chacun d'entre vous peut avoir avec l'éducation aux médias et l'information. Élodie Cerquera, donc présidente du club de la presse Centre-Val de Loire. Quand on dit club de la presse, on pense bien évidemment à ce réseau de journalistes au sein de la région. Mais vous avez pour ambition de vous ouvrir davantage et de plus en plus à l'éducation aux médias ou à l'information. Vous le faites certainement peut-être déjà et vous comptez accentuer cela, si j'ai bien compris.
Oui, exactement. Alors moi, effectivement, je suis journaliste indépendante de presse écrite et par ailleurs intervenante en éducation aux médias et à l'information, auprès des scolaires, mais pas que, hein, aussi auprès d'adultes. Et ça, c'est un sujet forcément dans lequel je m'engage beaucoup et qui me tient vraiment à cœur. Le Club de la presse est lui-même très engagé depuis toujours, hein, sur l'éducation aux médias et à l'information, mais c'est vrai que tout ça a pris beaucoup d'ampleur avec les tristes événements qu'on a connus ces dernières années, à commencer avec 2015 et tout ce qui s'en est suivi depuis. Et cette nécessité en fait d'apprendre à s'informer, notamment auprès des publics les plus jeunes, avec les réseaux sociaux qui se développent de plus en plus, qui leur tombent dans les mains de plus en plus jeunes, de plus en plus tôt. Une information malheureusement un peu trop prolifique parfois et pas toujours de bonne qualité. Voilà, et au regard de ça, ça accentue cette nécessité, hein, pour pas dire cette urgence d'éducation aux médias et à l'information, qui aussi commence à prendre sa place dans les programmes scolaires, même si on est loin de ce qu'on aimerait voir arriver. Et puis parce que tout ne repose pas non plus sur le corps enseignant, tout ne repose pas sur les journalistes non plus, voilà, il faut faire des choses ensemble. Donc l'idée au sein du club de la presse, c'est de créer un réseau régional, puisque finalement on est beaucoup d'acteurs, mais tout le monde ne se connaît pas. Et pouvoir avoir comme ça un lieu qui fédérerait un réseau, où les gens pourraient se rencontrer, échanger les bonnes pratiques et avancer sur ces sujets-là qui sont essentiels, nous semblait être plutôt une bonne idée. Donc nous-mêmes nous structurer autour de ça, donc on crée ce pôle EMI, dont on parle beaucoup, mais qui met du temps aussi à se mettre en place, parce que coordonner des acteurs sur 6 départements, ça prend du temps aussi. Et il n'y a pas que les journalistes qui sont concernés, évidemment. Il y a nos institutions, donc la DRAC présente ici aujourd'hui, le CLEMI, qui est le centre de liaison de l'éducation aux médias, qui a bien sûr sa branche aussi dans notre académie. Les enseignants, professeurs de documentalisme, mais pas que, qui portent de l'EMI, les bibliothécaires, les médiathécaires, voilà, tout.
Ça fait un sacré réseau.
Et chacun finalement fait dans son coin. Et si on arrive à réunir tout le monde, on peut faire vraiment quelque chose de très sympa.
Je me tourne vers Benoît Le Serre et Meng Shiv pour expliquer également les liens que la DRAC peut entretenir avec cette éducation aux médias et l'information. Pouvez-vous un peu nous parler du rôle de la DRAC ?
Oui, bien sûr.
Orientez votre micro, s'il vous plaît. Ouais.
Oui,
merci.
Bien sûr, le ministère de la Culture soutient depuis 2018 une politique de soutien à l'éducation aux médias et à l'information, à destination vraiment de tous les publics, des jeunes adultes en priorité sur tous les territoires. Et il a vraiment, et cette politique se décline vraiment. Par un soutien au niveau national, mais également par un soutien au niveau local pour des actions qui sont portées sur les territoires au plus près des citoyens. Et pour tout ce soutien aux associations locales et aux actions locales, c'est les DRAC, qui sont les services déconcentrés du ministère de la Culture, qui sont en première ligne pour accompagner ces projets et ces porteurs de projets.
Mengshi, vous voulez peut-être ajouter quelque chose ?
Oui, donc il y a... ça passe.
Ah, le micro, il est ouvert, c'est bon ?
Ça passe par un soutien financier à travers l'appel à projet. Enfin, on viendra plus en détail sûrement pendant l'heure. Et puis aussi par la structuration du réseau qu'on essaie de mettre en place avec le Club de la Presse pour, voilà, comme disait Elodie, travailler ensemble pour avoir une culture commune de l'éducation aux médias en région.
Oui. Valérie Martin, vous êtes professeure documentaliste au sein du collège Jean Rostand à Orléans. Pouvez-vous nous parler un peu du rôle capital des professeurs documentalistes pour pouvoir mettre en place cette éducation aux médias et à l'information ?
Bon, déjà, oui, je vais commencer par dire que l'éducation aux médias et à l'information, c'est une éducation qui fait partie des programmes scolaires depuis un petit moment. Hein, ça fait partie du champ d'expertise, c'est un des champs d'expertise des professeurs documentalistes, mais c'est aussi abordé de manière transversale dans les programmes scolaires, notamment, et moi je vais parler pour le second degré, à travers l'éducation morale et civique, mais aussi à travers les programmes de lettres, par exemple. Hein. Donc c'est un enseignement qui se doit d'être transversal, et qui nécessite une progression, ça c'est évident, et c'est ce qu'on l'a dit, hein. Il y a pas mal d'enjeux sous-jacents quand même à cette thématique, et donc elle se décline, mais je dirais que c'est peut-être là la difficulté, c'est de pouvoir avoir cette progression qui va pouvoir se faire sur l'ensemble de la scolarité des élèves. Mais on a donc le socle de connaissances et de compétences qui aide aussi à cela. Donc il y a un enjeu qui est présent dans l'éducation nationale et qui a été affirmé et réaffirmé à plusieurs reprises.
Le mot que j'entends sur cette table ronde, c'est enjeu. Est-ce qu'on peut aller un peu plus dans le détail de ces enjeux vis-à-vis de la jeune génération qui est abreuvée d'images numériques, qui est abreuvée de contenu via les réseaux sociaux, via tout ce que l'on peut imaginer, l'arrivée bien évidemment de l'intelligence artificielle qui ajoute une donnée supplémentaire à cette équation déjà fort complexe. Peut-on un peu aller dans le détail de ces enjeux ? Qu'est-ce que vous, en tant qu'acteur de l'éducation aux médias et à l'information, vous avez principalement observé comme enjeux capitaux dans cette éducation aux médias ?
Moi, je veux bien commencer. Ouais. L'enjeu, il est démocratique, en fait, tout simplement. C'est qu'une population mal informée, et c'est un peu le cas aujourd'hui, c'est une démocratie en danger. Et cette année est une année, il faut quand même le souligner, tout à fait spectaculaire en termes d'élections, mais dans le monde entier. Mmh. On a des enjeux géopolitiques très importants. Alors, à notre échelle, on a les élections européennes qui arrivent à grands pas, là, au mois de juin. À moyen terme, on a l'élection présidentielle en 2027, dont la propagande a déjà bien sûr commencé sur les réseaux sociaux. Mais c'est aussi des enjeux, il y a les élections américaines en fin d'année. Et je crois que c'est plus de 70 élections dans le monde entier. C'est énorme. C'est-à-dire que l'enjeu, il est démocratique à ce niveau-là. Et commençons tout de suite par le début. Les jeunes savent s'informer. La haine sur Twitter, c'est pas nos jeunes collégiens, nos jeunes lycéens. C'est la génération plutôt des parents. Donc voilà, les jeunes savent s'informer. En revanche, c'est un public vulnérable qui ne sait pas tout, qui est jeune, qui est malléable, influençable et qui est face à des outils parfois mis en main beaucoup trop jeune. Hein, quand on a un enfant de 8-9 ans qui se retrouve avec Snapchat, qu'est-ce qu'il en fait, qu'est-ce qu'il en connaît, comment est-ce qu'il peut se prémunir des dangers qui peuvent se cacher derrière les réseaux sociaux? C'est là que nous, on va intervenir, pas de leur dire vous faites mal. C'est qu'on a mis en main des outils somme toute puissants. Hein, quand on voit l'algorithme de TikTok, on peut quand même s'inquiéter. Et derrière, on leur dit, voilà, c'est quoi une information, c'est quoi une source, c'est quoi une vérification, pourquoi c'est important de le faire, parce qu'ils sont tellement abreuvés que même s'ils ne sont pas toujours dupes, à un moment donné, nous-mêmes, on peut l'être. Enfin, je veux dire, on l'est au quotidien. Et c'est de mieux en mieux fait. Et puis, tu l'as souligné, il y a cette IA aussi qui vient nous inonder de fausses images, maintenant du faux son, de fausses vidéos. Récemment, un élève me disait mais si, ça, je suis sûre, parce que c'était une vidéo, je l'ai vue.
Oui, le fameux deepfake.
Sauf qu'aujourd'hui, voilà, même la vidéo est transformée. Et quand bien même c'est une vraie vidéo, à partir du moment où elle est sortie de son contexte, elle peut aussi raconter une autre histoire. Voilà. C'est tout ça qu'il faut voir. Et à une échelle tellement grande que ce n'est plus d'informations dont on parle, mais de désinformations, de mésinformations.
Oui. Vous souhaitiez réagir, Benoît ?
Oui, tout à fait. Je partage tout à fait ce que vient de dire Élodie. Bien sûr, l'éducation aux médias et à l'information, c'est un enjeu pour nos démocraties actuelles. C'est aussi donner des outils à l'ensemble des citoyens, pas que les jeunes, puisque finalement, cette question d'éducation aux médias et à l'information, elle concerne tous les citoyens. L'éducation aux médias et à l'information permet d'exercer son libre arbitre son esprit critique dans un monde qui n'a jamais été aussi rempli de sources d'images et d'informations qui ont été démultipliées par l'émergence des réseaux sociaux et qui ont complètement bouleversé les manières de communiquer. On n'est plus sur une information ou sur une communication qui est descendante, mais de pair à pair, ce qui a complètement aussi changer la manière dont circule une information. Et donc, comprendre ces mécanismes, c'est quelque chose d'essentiel pour justement pouvoir penser et réfléchir en toute connaissance de cause, de savoir qui est la personne qui s'exprime face à nous, qui véhicule cette idée, et pouvoir justement savoir qui nous parle. Et ça, effectivement, c'est un enjeu qui est essentiel pour le ministère des Cultures, qui, à travers justement toute forme de culture, cherche justement à permettre à chacun d'exercer son sens critique et un regard éclairé sur le monde.
Valérie Martin, c'est un enjeu démocratique, comme disait Élodie Cerquera.
Oui, je pense qu'on peut que se rejoindre. Et puis, je pense que les mots-clés ont été prononcés, l'esprit critique. Ça, je pense que c'est, en tout cas, nous, ça fait partie de nos objectifs. Alors moi, plus humblement, je vais juste témoigner de mes pratiques et puis de mes élèves.
Et c'est pour ça qu'on vous invite. Hein,
voilà, c'était l'attendu, donc je vais juste témoigner de ça. Et tu en sais quelque chose aussi pour les avoir rencontrés. Finalement, on a des jeunes qui ne s'informent pas tant. Et moi, c'est ça qui me, voilà, c'est ça aussi qui m'interpelle, qui n'ont pas une connaissance de l'actualité, mais par contre, qui sont sans arrêt bombardés d'informations et qui ont déjà du mal peut-être aussi à discerner ce qu'est une information.
Donc vous voulez dire qu'il y a une différence entre l'information qui vous tombe dessus et l'information que vous allez chercher ?
Tout à fait. Ouais. Il n'y a pas forcément de pratique. Enfin, moi, je sais que ce qui m'intéresse, c'est les pratiques de nos élèves. Enfin, c'est de partir de ça. Et il n'y a pas... enfin, je veux dire, comme nous, on pourrait écouter les informations régulièrement, s'informer. Il n'y a pas, en tout cas, moi, je peux témoigner chez nos élèves, il n'y a pas tant de jeunes que ça qui cherchent à s'informer. En revanche, sur les réseaux, ils sont bombardés d'informations, mais ce qui pose la question, finalement, de qu'est-ce que c'est qu'une information. Et ça, c'est quelque chose, pour moi, de capital, et on commence toujours par ça. C'est quoi une information ? On dit que, enfin, vous avez souligné qu'aujourd'hui, ça passe de pair à pair, enfin, c'est aussi, voilà, sur les réseaux, mais ça pose quand même cette question de c'est quoi la différence entre une info et une rumeur, une anecdote. Ouais. Vous voyez, donc déjà il y a un enjeu qui est fondamental là-dessus déjà.
Quelle est la source initiale de
exactement. Ouais. Voilà.
Ouais, toute la question c'est de savoir aussi comment éviter d'être descendant tout en s'adressant entre guillemets à son public et en donnant une information de qualité. C'est est-ce que c'est possible de joindre les deux bouts pour le coup?
Moi il me semble que l'information elle est plus subie que choisie. Mmh. Et, c'est ça. Et pas que pour les jeunes en fait. Mmh. Tout le monde, à partir du moment où on a un smartphone ou qu'on a la télé ou un média quel qu'il soit numérique, même quand on choisit pas, on est bombardé. Mmh. Alors les enfants, effectivement, je rejoins les jeunes, non pas. Alors quand on dit les jeunes, on parlait du secondaire, donc les collégiens, les lycéens, on va dire au collège, normalement, d'après, c'est là qu'on commence à avoir son premier smartphone. Ils n'ont pas de routine informationnelle, sauf quand ils ont des parents déjà très assidus qui les ont mis. Mais moi, c'était loin, hein, mais moi, je me souviens aussi collégienne. Bon, les infos, je voyais pas bien l'intérêt. Ils ont souvent un réseau social, quand on leur pose la question, c'est pour se distraire, pour échanger avec leur communauté, pas forcément pour s'informer. Et donc, c'est pour ça que je parle d'informations subies, c'est que d'un seul coup, ils subissent. Et effectivement, et là où je vous rejoins complètement, c'est qu'après, ils ne font pas le distinguo entre une info, une rumeur. C'est quoi faire confiance à quelqu'un ? Bah si, ça c'est vrai, puisque c'est un tel qui me l'a dit, et puis bah, il ne va pas me raconter des sottises. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses derrière ça, parce qu'ils ne savent pas comment, ce qu'est une information en soi.
Louise, tu voulais réagir aussi, vas-y.
Oui, et puis même, il n'y a pas que des informations, il y a aussi des choses qui peuvent être choquantes aussi pour ce public-là.
Ah oui,
mais c'est du coup,
en termes de contenu où on est gâté.
Oui, et du coup, je ne sais pas si on peut vraiment dire que c'est des informations si on tombe sur des images pornographiques ou des choses comme ça.
Alors, c'est là qu'il faut différencier aussi l'éducation aux médias ou d'autres types d'éducation. En fait, des éducations A sur le parcours citoyen tel qu'il est aujourd'hui construit dans le secondaire, il va comporter l'éducation à la sexualité, la cybercriminalité, le harcèlement, etc. Ça, c'est pas de l'éducation aux médias à l'information. En fait, tout ça, ce sont des mondes qui se rejoignent. On peut les aborder, mais nous, ce qui nous intéresse en tant qu'acteurs de l'EMI, ça va être l'information. Mais effectivement, cette exposition aux images violentes, les médias ont leur part de responsabilité à prendre. Quand on montre un bombardement à un jeune qui n'est pas prêt à le voir, là, je vous rejoins. Et donc, en fait, c'est tout ce mélange, effectivement, où l'info vient se mélanger à la rumeur, au complotisme, à la pornographie. Enfin, on trouve de tout et surtout n'importe quoi sur les réseaux.
Dans cette émission, on va beaucoup parler de jeunes et de jeunesse, mais je voulais rebondir parce que c'était aussi une question que je voulais poser, que j'avais prévue sur l'éducation aux médias. Elle n'est pas que pour les jeunes, vous l'aviez dit tout à l'heure, Benoît Lecerf. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus dans le détail de cela ? C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je faisais de la veille sur les réseaux sociaux quand j'étais journaliste, je constatais sur le réseau social Facebook, qui est quand même le réseau typique des quadras et des quinquas, et un nombre de commentaires ou de publications assez phénoménal qui ne vérifiaient pas leurs sources, qui ne vérifiaient pas vraiment les informations, qui commentaient en fait à tue-tête de très nombreuses informations, mais sans avoir véritablement pris la mesure de ce que cela impliquait. Ouais, cette éducation aux médias. Enfin, est-ce qu'on a raté en fait un train depuis maintenant plusieurs décennies en gros ? Parce que j'ai l'impression que ça ne touche pas que notre génération, notre jeune génération. Ça touche depuis très longtemps à l'esprit critique de ce qui est développé depuis quelques décennies maintenant.
Il me semble que jusqu'aux années 90, ou en tout cas jusqu'à l'émergence vraiment à l'explosion d'Internet, je me dirais jusqu'à la fin du 20e siècle, on avait une forme d'information après-guerre qui était assez calibré qui par deux types de médias, qui étaient la presse, puis la radio, puis l'émergence 3D et la télévision, avec une régulation qui était aussi assez, avec un nombre de canaux qui était assez limité et une régulation assez assez forte finalement de ces médias, surtout de la télé et de la radio.
La fameuse ORTF.
De la télévision publique au début, effectivement, vous faites bien de le mentionner. Au début, il n'y avait que l'État qui avait la possibilité de s'exprimer. Après, donc, il y a bien sûr eu l'émergence des radios libres, qui était une forme de libération de la parole, mais finalement aussi toujours encadré avec un certain nombre de règles d'expression des informations, des opinions, parce que finalement, l'usage de la fréquence hertzienne, cette fréquence hertzienne appartenait à l'État, et donc en contrepartie de son usage, finalement, il fallait répondre à un certain nombre de règles. Or, avec l'émergence d'Internet, on n'est plus du tout dans ce même cadre, et donc on est aussi dans un cadre complètement dérégulé là-dessus. Et finalement, on a tous appris à fonctionner avec Internet dans un cadre qui était complètement dérégulé en termes d'expression, et finalement même des personnes qui avaient des habitudes, ou en tout cas qui n'avaient pas la même vigilance peut-être sur l'information qui leur était adressée parce qu'elle était de fait filtrée, là se sont retrouvés confrontés à d'autres sources sans avoir peut-être les réflexes de doute, de vérification.
Mais en faisant bien la part des choses, le doute c'est pas être complotiste,
non, hein,
c'est
vrai.
Moi, je pense qu'on a raté une marche, pour ne pas dire l'escalier complet, avec l'arrivée du numérique. Ouais. Là, Meta, donc Facebook, vient de fêter ses 20 ans. Nous, on est la génération où on a connu Facebook. On avait 12 abonnés, on était tout contents. on n'a pas vu le mal. Et ce que tu dis est très juste. Ceux qui l'utilisent mal, c'est d'abord nous. Ce problème, c'est qu'on forme des publics adultes, mais on ne peut pas tous les former. Donc, c'est le problème quand on gère au départ des priorités, puis des urgences. Quand il y a de l'urgence, là où il faut, on se dit, bon, on mise sur les vieux ou sur les jeunes. Et puis, il y a autre chose, c'est que quand on va dans une école, c'est financé. Quand on va faire des publics adultes, qui finance ?
Après, vous nous aidez quand même, la DRAC, pour le coup, ça me
évidemment,
profite pour vous donner la balle aussi, parce que voilà.
Et c'est là où peut-être un point aussi qui est très intéressant à souligner, c'est que moi je représente le ministère de la Culture, mais c'est pas le seul ministère à fortement s'impliquer en matière d'éducation, médias et l'information. Et donc, bien sûr, l'éducation nationale et avec le CLEMI, avec tout le travail qui est mené par les professeurs documentalistes.
Alors, le CLEMI, juste pour nos auditeurs, je rappelle, Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information, quoi, je préfère.
Et donc voilà, il est vraiment au cœur de ces actions. Mais effectivement, nous, en l'occurrence, côté ministère de la Culture, on élargit le scope à tous les publics et on accompagne et des actions qui se tiennent en temps scolaire, mais également des actions qui se tiennent hors temps scolaire auprès d'autres publics. Et on est aussi vigilant à ce que la proportion de ce type d'action soit importante, puisqu'on sait aussi qu'il y a moins peut-être de soutien offert sur ce type d'action.
Valérie, vous avez une remarque par rapport à cela ou parce que c'est vrai que vous touchez surtout à des publics jeunes pour le coup, donc je ne sais pas si...
Non, je ne vais pas me prononcer pour les adultes.
Ça marche.
Après, une question de faisabilité. Oui. Quand on va devant une classe, on va toucher une trentaine de jeunes.
C'est sûr.
Réunir 30 adultes, 30 quinquas pendant 2 heures pour faire le EMI, c'est un peu plus compliqué.
Oui. Je vais filer la parole à Louise et puis ensuite après, elle pourra enchaîner aussi sur sa petite chronique qu'elle nous a préparée.
Mais oui, par exemple, moi je suis née dans les années 2005 et j'ai pas eu trop de formation là-dessus. Je pense que c'était pas encore trop à ce moment-là. Par exemple, on disait tout à l'heure la formation à la sexualité, ça j'ai eu. Mais aux médias, personnellement, je m'en souviens pas tellement. C'est peut-être au lycée où on m'a plus dit de me concentrer sur peut-être les sources d'information, mais vraiment pas forcément plus que ça, donc
c'est normal.
Je vais te rejoindre, moi non plus, je n'en ai pas eu.
Parce que c'est pas une discipline, c'est pas une matière.
C'est pas une matière en tant que telle, effectivement.
Non, mais c'est l'EMC aussi, c'est le rapport avec l'éducation. Enfin, l'EMC, est-ce que vous
pouvez. Morale et civique.
Éducation morale et civique, voilà.
Mais comme disait Valérie.
On n'en avait pas à l'époque. Enfin, moi, je me souviens que l'heure d'éducation civique, telle qu'on l'appelait, en fait, servait souvent d'heure de. De trous, ou alors on s'en servait pas vraiment, en fait. Moi je vous avoue, à l'époque du collège,
je pense qu'il y a eu une époque aussi où en fait citer ses sources c'était juste de l'ordre méthodologique, et de, enfin, c'est-à-dire qu'on citait ces sources parce que c'était des sources écrites, on renvoyait à l'écrit. Effectivement, là, ce qu'on souligne en termes de génération, c'est la multiplication des sources. Et donc aujourd'hui, on est en train d'interroger la fiabilité. Ouais. Et on n'est plus dans une démarche juste intellectuelle de citation. Voilà, là, on est là en train de dire, est-ce que mes sources sont fiables ? Ouais. Donc ça commence à faire un petit peu, mais je dirais que c'est exactement ce qui a été souligné, c'est transdisciplinaire et transversal.
Oui.
Mais c'est un petit peu aussi comme toutes les éducations A. Donc il faut que ce soit pensé, réfléchi, concerté, développé, mis en progression par les équipes disciplinaires.
Oui.
Et pas par les équipes pédagogiques. Donc voilà, ça prend du temps et puis je veux dire que ça avance aussi, mais c'est work in progress, quoi,
oui.
En quelque sorte.
Eh bien, on va progresser dans le work au cours de cette émission. Avant cela, je donne la parole à Louise qui va nous faire sa petite chronique. On va parler de rééducation aux anciens médias. Oui, parce que les anciens médias ne sont pas morts.
Oui, c'est ça. En fait, quand j'ai vu le thème de l'émission, éducation aux médias, je me suis dit, il y a d'une certaine manière des nouveaux et des anciens médias. Donc, les nouveaux médias, c'est un peu ce que j'appellerais tout ce qui est numérique, donc les réseaux sociaux, ce dont on parlait tout à l'heure, et les anciens médias, télévision, presse et radio. Donc d'abord quelques chiffres pour un petit peu comparer. Donc j'ai été voir sur la Voix du Nord par rapport à la télévision. En moyenne, les 15-34 ans regardent 1h25 par jour. Et pour les 50 ans et plus, environ 5h23. Donc déjà, on voit une grosse différence entre les deux. Après, par rapport à la radio, j'ai été sur CB News et d'après un article de Thierry Mogissac, il disait qu'en fait, il y avait 38,1 millions d'auditeurs de 13 ans et plus en 2023 et que, en un an, la radio, elle avait perdu quasi 1 million d'auditeurs. Donc, entre les deux années, je ne sais pas si c'était très compréhensible. Et après, par rapport à la presse, donc là, ça fait vraiment bizarre parce que je me suis rendu compte que là encore, on a une baisse. Donc, c'est-à-dire qu'en 2023, il y avait 7,3 millions de journaux imprimés. Non, c'est l'inverse, pardon. En 2022, il y avait 8,1 millions de journaux imprimés. Et en 2023, il n'y avait plus que 7,3 millions. Donc là aussi, on voit une baisse sur ces trois médias. Et donc, on peut se demander comment adapter, comment trouver des solutions un petit peu pour redonner envie aux jeunes de retourner sur ces, entre guillemets, anciens médias. Donc pour la télévision, on retrouve le replay qui peut apporter une plus grande liberté. Bah, et pour la radio, on retrouve aussi les podcasts. C'est un peu le même principe. Donc, c'est-à-dire qu'on est vraiment, si on loupe une émission, on peut aller la voir plus tard. Et ça permet vraiment d'être libre. Et ensuite, par rapport à la presse, c'est le journal dématérialisé qui s'installe du coup petit à petit. Et aujourd'hui, c'est environ 25% des ventes. Mais ces solutions, je trouve que ça engendre un autre problème. C'est la dépendance au téléphone, puisque maintenant, même pour accéder à ces anciens médias, on va être obligé d'aller sur notre téléphone pour pouvoir consulter par exemple les journaux et justement notre temps d'écran va augmenter. Et c'est surtout qu'aussi une étude a été menée dans la revue Educational Research Review en 2018 qui disait comme quoi quand on lit sur un téléphone, on comprend moins bien que lorsqu'on lit sur un journal papier ou un papier. Et du coup, c'est des choses aussi que je pense qui sont à penser dans cette nouvelle rééducation. Voilà.
Merci beaucoup, Louise, pour ta chronique. Est-ce que autour de la table, vous souhaitez réagir ? Jivmeng, peut-être ?
Oui, on en vient à l'opposition entre les médias traditionnels et puis les
pardon,
nouveaux...
Meng Chiv, hein, pardon. Je l'ai donné dans le mauvais ordre, pardon.
Oui, les nouveaux médias, et il y a un glissement de consommation des médias par les jeunes. Et est-ce que c'est aux médias traditionnels de s'adapter et de s'adapter à cette consommation et donc de moderniser un peu leurs outils, ou est-ce que c'est aux jeunes d'aller vers les médias traditionnels? C'est un peu la question, mais je pense que voilà, les grands journaux ont fait déjà le pas d'aller vers ces nouveaux éditeurs et d'adapter leur contenu par la semaine.
Via des newsletters, par exemple. Les newsletters, c'est pas forcément pour les ceux qui ont 15-20 ans, c'est déjà pour les un peu plus âgés, mais oui, des formats particuliers.
Ils ont investi TikTok, ils ont investi WhatsApp, tout ça.
Ouais. Effectivement, ce n'est pas du tout le même type d'écriture selon le type de média. Et pour rejoindre tout à fait ce qui a été dit dans la chronique, quand on prend l'âge moyen, l'âge du téléspectateur moyen, il prend un an finalement, ce n'est pas compliqué. Chaque année, il prend un an supplémentaire. Ce qui veut dire que le public ne se renouvelle pas. Et moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'audiovisuel public à un temps donné. L'âge moyen du spectateur des chaînes de France Télévisions, il est supérieur à 60 ans. Ouais. L'âge moyen. Et c'est le cas, et même pour TF1, M6, ces groupes-là, on rajeunit de 5 ou 10 ans, mais l'âge moyen du spectateur télévision, il est de 50 ans.
Mais alors, ça me fait rebondir justement sur quelque chose que j'avais prévu, c'est que il y a une étude qui a été publiée très récemment et qui a été mise en avant là, par le site internet du CLEMI, enfin deux études pour être précis, selon lesquelles alors, il y a des choses très positives qui sont à ressortir. 90% par exemple des élèves des filières professionnelles pensent que les séances d'éducation aux médias et à l'information les ont aidés à mieux repérer les infox. 61% des élèves en filière générale et technologique le pensent aussi. Ça, c'est une chose, mais il y a un chiffre sur lequel je voulais revenir parce que ça me permet de rebondir sur ce que vous dites, c'est sur les pratiques informationnelles et notamment l'utilisation de la télévision. Elle joue encore un rôle central dans la formation des jeunes puisque 43% des lycéens interrogés s'informent actuellement par la télé. Mais moi, la question que j'ai à poser, par contre, c'est quelle télévision ? Parce que, on regarde la télévision, chez les jeunes encore, mais est-ce qu'on regarde C8 ou est-ce qu'on regarde Arte, par exemple ?
On n'est pas sur des pratiques aussi qui sont liées à d'autres critères ? Enfin, c'est un peu difficile de généraliser qui s'informe comment uniquement en fonction de l'âge.
Oui.
Moi, juste pour revenir sur le public que je connais, que je pratique au quotidien, il et elle regardent la télé parce que les parents regardent la télé, parce que la télé est allumée.
Mais la télé peut être quelque chose de bien, en tout cas. Mais...
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pareil. C'est une télévision plutôt subie, en tout cas, dans ce qui est dit. Et très clairement, ce qui ressort, c'est les chaînes d'infos en continu.
Oui, hein,
comme, bien sûr. Voilà. Et c'est une vraie question. De ces chaînes d'infos en continu. On n'a pas beaucoup le temps, nous, dans tout ce qu'on peut mettre en place, de venir questionner ça. Mais souvent, on les interroge sur le fait que la construction, la production d'informations peut être aussi en opposition avec la rapidité et puis le direct constant.
Oui.
Voilà. En tout cas, c'est quelque chose qu'il y a à venir questionner. Et c'est aussi en faisant, en étant acteur... producteur d'informations, qu'on se rend compte de ce temps nécessaire.
Vous parlez d'informations continues, je rajouterais aussi quelque chose peut-être, l'infotainment, justement, quand je parlais de C8 tout à l'heure, alors on a un type d'infotainment, si on peut avoir quotidien je vais pas comparer quotidien par exemple à Touche pas à mon poste, mais quand vous savez que nombre de jeunes s'informent en regardant tous les jours l'émission de Cyril Hanouna, est-ce que ça ne pose pas question, Élodie Cerquera?
Moi, je veux bien temporiser un petit peu. Alors, je vais revenir rapidement sur le chiffre des 43% des jeunes qui regarderaient la télé. Je pense que dans les études, qui sont très bien, et heureusement qu'elles sont là, il y a quand même beaucoup de biais. Quand on demande à un jeune, est-ce que tu regardes la télé ? Évidemment, il va vous dire oui. Et là, je rejoins Valérie, il va la subir. Que ce soit BFM TV en continu, LCI, France Info, peu importe. Rarement sont les jeunes qui vont vous dire, moi, j'adore regarder le JT, c'est incontournable.
Moi, j'aime bien, moi.
Et en fait, quand ils vont vous parler de télé, ils vont vous parler de Netflix, ils vont parler d'Amazon Prime, mais sur leur PC.
Bah oui,
mais qu'ils c'est pas associent à de la télé, puisque derrière, on peut regarder la télé. Enfin, déjà, il y a ça. Et la télé, ils la regardent sur leur smartphone. Les replays, c'est sur le smartphone. Donc, déjà, il y a ça. Je pense que le point de vigilance, il est là. Et pour revenir sur les deux émissions que tu as citées, que sont Quotidien et TPMP, ce pas les jeunes qui regardent. On en revient là. Les auditeurs de TPMP, souvent, ne sont pas les jeunes. Et moi, pour intervenir aussi, et pas que, mais auprès des jeunes, ils vont dire « Ah non, mais regarde pas ça, c'est nul. » C'est souvent les parents. C'est encore la génération Facebook,
parents,
en fait. Bien sûr, c'est la génération Facebook, la génération X, donc ex-Twitter. Les jeunes, souvent, ils sont au contraire très clairvoyants sur le fait que, bon, de temps en temps, c'est rigolo, mais c'est assez bullshit, comme ils disent. Ils ont compris qu'il y avait aussi beaucoup de violence dans ces émissions-là. Et ils n'ont pas envie de ça. Ils n'ont pas forcément envie de ça.
Louise ?
C'est surtout qu'ils n'ont pas forcément... Enfin, il n'y a pas forcément d'émissions adaptées. Pour eux, en tout cas, même quand on voit les présentateurs, la moyenne d'âge, c'est pas des jeunes.
C'est pour ça qu'ils ne regardent pas.
Voilà, c'est ça aussi.
Et quand ils regardent souvent, c'est malgré eux, à cause des captures de vidéos sur les réseaux sociaux.
Oui, du coup, et qui sont
retransmises. C'est comme ça, finalement, qu'ils les voient le plus que de se donner ce rendez-vous à la télé. Et que quand ils l'ont, souvent, c'est sous influence parentale aussi derrière, parce que les parents aiment bien regarder, ou parce que parfois, la télé, c'est un bruit de fond.
Oui, Benoît.
Oui, peut-être juste en complément de ce qui a été dit, pour vous donner un ordre d'idée en termes de pratique, il me semble que le temps moyen d'écran pour l'ensemble des citoyens, il est compris entre 5h et 6h, entre 4h30 et 6h, sachant que, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, pour les plus de 50 ans, on est plutôt sur 5 heures de télé et 1 heure d'autres médias, là où pour les jeunes, on est plutôt autour de 1h30 de télévision et autres médias, et tout le reste plutôt de numérique. Ça montre un petit peu quand même, même si donc la télévision reste un média utilisé par tous, c'est pas dans les mêmes proportions, et je pense que de la même manière, les réseaux sociaux sont utilisés par toute la population, mais pas dans les mêmes proportions. Donc il y a quand même des canaux qui sont privilégiés selon les âges.
Ouais. Oui, et puis quand on parle d'écran, ça aussi en EMI, c'est un peu énervant parce qu'on dit le temps d'écran, en fait c'est pas tant les écrans, parce qu'un écran c'est quoi, qu'est-ce qu'on y fait? C'est-à-dire que moi quand je passe 2 heures, on a cité Arte, si je regarde 2 heures Arte, c'est pas comme quand je suis 2 heures sur TikTok. Et pourtant, c'est du temps d'écran. Donc je pense qu'il faut faire attention aussi, parce qu'on commence à avoir des mots qui sont très galvaudés. On met tout ça dans le même sac. On diabolise beaucoup, ce qu'il ne faut surtout pas faire, il me semble, avec les jeunes encore moins. Et on culpabilise. Et c'est souvent ça. Hein. Je sais pas si c'est propre à notre culture, mais on a tendance à beaucoup culpabiliser. Genre, tu tries pas, c'est pas bien. Tu regardes tes écrans, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'on fait de nos écrans? Moi, un jeune qui me dit que je regarde Arte, mais je le regarde sur mon smartphone parce que j'aime bien être dans ma chambre un peu tranquillou, c'est pas grave, c'est cool. Par contre, s'il me dit 2 heures de TikTok, ça m'a fait du bien, là, je m'inquiète un peu. Quoi.
Il y avait pas de jugement sur le fait de passer du temps devant l'écran, c'était juste qu'effectivement...
Non, je parlais c'est le sujet, là, oui, c'est tout écran tout le temps,
la question des écrans,
les études...
Il y a des questions de prévention, je pense plutôt pour protéger les plus jeunes sur justement le temps d'exposition aux écrans. Néanmoins, après, effectivement, ça dit juste quelque chose sur le temps d'attention que chacun consacre aux médias, quel qu'il soit. Et après, finalement, comme tu le dis, même dans ce temps passé, quelle est la part d'information, l'information choisie sur des émissions cataloguées information, sur de l'information qui transpire à travers des émissions qui ne sont pas forcément des émissions dont l'objet est spécialement l'information. Donc on vous parlait finalement de ces émissions qui sont entre deux en télé, mais ça, on retrouve ça aussi sur d'autres formats et sur les réseaux sociaux également.
Par contre, moi, je rebondis sur ce que dit Louise et qui est très vrai, c'est qu'est-ce qu'on a à proposer à cette fameuse jeunesse, donc collégiens, lycéens, en termes de contenu informationnel, que ce soit audiovisuel, radiophonique ou écrit, peu importe. Mais à 15 ans, on ne va pas lire La République du Centre. Qu'est-ce qu'on va y trouver qui va venir nous nourrir? On ne va pas regarder le JT, parce que la plupart du temps, soit ça nous violente, soit on ne comprend pas tout, parce que le langage utilisé, les sujets proposés... Alors moi, j'ai connu, adolescente, la presse écrite pour les ados. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Et un appauvrissement de la presse écrite papier, parce que la presse écrite web, c'est encore autre chose. Mais la presse écrite papier, il y a aussi derrière toute la question des modèles économiques des médias qui se sont effondrés avec le numérique. Le papier qui coûte très cher. Donc bon, déjà, lire sur papier, oui, mais il faut pouvoir se le permettre. Et puis dans le web, alors oui, on va avoir des médias pour les jeunes, mais on a surtout des sites pour les jeunes. Est-ce que c'est de l'information, pas de l'info? Enfin, il y a quand même toutes ces questions qu'il faut se poser. Est-ce qu'on a adapté nos contenus à nos cibles? Pas sûr.
Louise?
C'est aussi, je pense, des choix qui ont été faits par rapport à la presse. Par exemple, aujourd'hui, on dit oui, le papier et l'écologie, mais il y a des solutions qui existent, comme le papier recyclable. Et je pense que ça pourrait être quelque chose d'intéressant, ou même éviter d'imprimer en couleur. Ça pourrait aussi...
Ça sera plus lu. Voilà. Il y a des médias qui ont fait le choix du noir et blanc, mais ça, c'est un choix graphique. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui attire déjà, ne serait-ce qu'un réseau social ou sur un smartphone, c'est l'image. Et parce qu'elle est en couleur.
Ah, c'est ce qu'on disait dans l'émission tout à l'heure.
Et on se met en noir et blanc, ça ne marche plus.
Quand l'enrichissement des papiers Facebook avait été interrompu en 2020 après un conflit entre Facebook et les éditeurs de presse, on avait vu une chute vertigineuse de notre trafic sur les sites internet pour le coup. Ouais. Valérie, vous souhaitiez rajouter quelque chose?
Oui, l'image, c'est vraiment très très important. Déjà parce qu'on s'est rendu compte, il y a des études aussi qui ont montré que les jeunes, quand ils cherchaient une information déjà sur Google par exemple, sur un moteur de recherche, sélectionnaient le choix par l'image, la réponse par l'image, plutôt que de faire défiler. Donc ça, c'est assez intéressant. Je sais que nous, avec l'option média, on travaille sur la création de contenu médiatique par, on va dire, par inspiration de des contenus que peuvent consulter nos jeunes, que sont Brut et Combini, pour les citer, c'est-à-dire des petits formats vidéo très courts, avec les 5 W qui sont abordés, voilà, les sous-titres.
Les 5 W pour les auditeurs, c'est qui, quoi, quand, où, comment, et on peut même rajouter le pourquoi, et même moi, c'est exactement ce que j'allais dire, moi aussi je me rajoute le combien. Ouais.
Ouais. Et c'est quelque chose qu'on a expérimenté cette année, hein, et on a cherché avant avec les médias, on va dire, avec le numérique, mélanger l'image, la photo, mais aussi le texte, mais aussi la radio. Et finalement, ce format nous semble plutôt intéressant, et en tout cas, il capte l'attention des élèves, l'intérêt des élèves, et quand même une forme de facilité qu'ils ont à s'emparer de ce type de médias et d'intérêt qu'ils y trouvent. Voilà, c'était pour répondre à ça. Pour rebondir sur la question de la presse écrite, mais que fait par exemple la presse écrite pour intéresser les jeunes? Ben là, c'est en tant que professeur documentaliste, hein, que je vais témoigner, parce qu'on a toujours des kiosques presse dans nos CDI. Et force est de constater que ils ne sont pas trop empruntés ou consultés. Non. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne le sont pas du tout. Et qu'il y a quand même aussi un renouveau. Là, on avait quand même, je trouvais, moi, en tout cas, des formats, des périodiques, un petit peu des marronniers qui revenaient. On a l'impression que c'était sans arrêt le même numéro qui revenait chaque année, mais avec une couverture différente. On a quand même maintenant d'excellents magazines pour les jeunes. J'ai envie de citer Geek Junior, par exemple, que je trouve très intéressant. La magnifique revue Topo, qui est l'équivalent de la revue dessinée. Donc l'information en bande dessinée. Un vrai travail artistique, informationnel. Donc je veux dire qu'il existe quand même des alternatives qu'il faut faire découvrir à nos jeunes, et qui répondent aussi à cette question de finalement pourquoi il y a un désintérêt pour le papier de la part de ces jeunes. L'objet papier, quand je reparle de cette revue là que je viens d'évoquer, c'est quand même quelque chose de très beau à feuilleter. Alors oui, c'est la bibliothécaire, hein, qui parle en moi, mais quand même, ce plaisir là il peut être aussi éprouvé par les jeunes, et c'est le cas quand même. Mais par contre, on va avoir une consultation, de ce que je vois, là où moi je vois que j'ai quand même des pratiques ancestrales d'ouvrir le monde avec ses grandes pages. C'est pas du tout pratique quand même entre nous, hein. Eux, ils vont être là, feuilleter 2 ou 3 minutes. On est sur quelque chose de très bref, reposé. Hein, on va pas lire forcément du début à la fin une revue. Mais il y a quand même cette pratique, quand même, encore du papier, la consultation rapide.
Voilà, il y a la différence entre la presse magazine, qui elle, forcément, elle, mais celle-là, on est dans la presse spécialisée.
C'est vrai.
Et là, on peut s'adresser aux jeunes. Oui. Mais pour ce qui est de la presse quotidienne, qu'elle soit télévisuelle, radiophonique ou papier, elle propose pas grand-chose aux jeunes, et ils regardent un journal comme ils scrollent sur leur portable. Mmh. Et 2-3 minutes à tourner les pages.
On picore. Comme, voilà, ça va très vite.
Bon, Louise. Oui. Ah, c'est bien. C'est une émission où vous vous donnez la parole, et c'est tant mieux. Voilà, moi, c'est aussi le type de format que je voulais, donc c'est très bien.
Bah, je pense qu'il... Enfin, ce qui manque un petit peu, c'est peut-être de la dynamique, réapporter peut-être des nouvelles choses pour attirer, enfin, même au niveau des couvertures, peut-être des magazines, peut-être des images plus, je sais pas, qui soient plus grandes, un plus grand format ou des choses comme ça.
Bah, par exemple, moi qui suis un passionné de sport, il y a Basket Session, qui est un magazine spécialisé dans le basket et qui s'est mis à faire un format qui s'appelle le MOOC. Donc à mi-chemin entre le livre et le magazine, en fait, donc entre le book et le magazine, des formats qui sont très, qui sont illustrés en fait par vraiment des dessins de très grande qualité, et qui vraiment nous attirent rapidement. Et malgré tout, en fait, la forme est au service du fond, parce que vous avez des articles qui sont de grande qualité, des articles longs qui nous permettent vraiment de se plonger dans la profondeur d'un sujet, et qui permettent de décliner en fait une thématique sur plein d'angles différents. Je ne sais pas si c'est l'avenir un peu de ce que l'on peut appeler la presse magazine, parce que vous disiez, Valérie, malgré tout, beaucoup de jeunes feuillettent avant tout et ne vont pas forcément lire un article jusqu'au bout, mais j'ai l'impression en fait que ce genre de format a tendance à se développer de plus en plus dans la presse magazine. Je ne sais pas si vous partagez ce sentiment, Élodie.
Moi, je serais plus nuancée, puis peut-être moins optimiste. effectivement, nos kiosques regorgent encore de beaucoup de titres et c'est bien heureux, et pourvu que ça dure. En revanche, il y a aussi un contexte socio-économique qu'on ne peut pas mettre de côté. Un jeune, quand on lui dit ton magazine, tu vas le payer 8 euros ou sinon tu vas aller gratuitement consulter des choses sur Internet, on sait déjà ce qu'il va choisir. Il y a aussi un contexte familial. Quand on n'est pas, on n'a pas grandi dans la culture du beau, du livre, du papier glacé, on fait avec ce qu'on connaît. Et puis après, une fois de plus, à part Louise, nous, on est la génération qui avons appris le numérique. Là, on parle de ce qu'on appelle les numériques natifs, c'est-à-dire ceux qui sont nés avec le numérique. Mais finalement, le débat qu'on a aujourd'hui, c'est celui qu'on a eu à l'époque où la télé est intervenue. On s'inquiétait tous de ce média qui nous monopolisait pendant des heures. Il faut vivre aussi avec son temps. Et me semble, la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on a cette table ronde, et là est notre rôle, c'est pas de lutter contre les outils, c'est pas lutter contre... Et c'est pas de prêcher pour sa paroisse. Moi, je travaille pour la presse écrite. Donc on pourrait s'attendre, plus à passer quelques papiers, on pourrait s'attendre à ce que je la défends de bec et ongle, et je la défends. Mais c'est pas le propos. Aujourd'hui, c'est de toute façon, vous avez des portables, de toute façon, il y a les réseaux sociaux. D'évidence, avant qu'on arrive à les réguler, malgré la loi européenne qui vient de sortir, il va se passer beaucoup de temps. Vous avez cet outil qui vous donne tout. Et malheureusement, même ce qu'il faudrait pas, c'est nous, comment est-ce qu'on peut vous aider dans cette jungle à continuer à être de bons citoyens, à aiguiser votre esprit critique, et que quand vous avez quelque chose, un contenu sous les yeux, que vous sachiez comment vous positionner.
Benoît Le Serre, par rapport à ce que Elodie disait, comment est-ce qu'on accompagne justement ce mouvement? Comment est-ce qu'on accompagne cette éducation aux médias avec votre regard, vous, au sein de la DRAC, puisque vous avez, j'imagine, un regard plus global sur la situation de l'éducation aux médias et à l'information? Voilà, quelle est la manière de fonctionner?
Disons que du point de vue de la DRAC, en tant que finalement service déconcentré du ministère de la Culture, l'éducation, médias et l'information est arrivée dans les politiques du ministère à un moment où on avait aussi une très grande expérience de l'éducation artistique et culturelle, de l'éducation à l'image. Donc là, on est vraiment rentré sur l'éducation, médias et l'information. Ce n'est pas de l'éducation à l'image. Ça peut être en partie l'éducation à l'image, mais ce n'est pas que ça. Et par ailleurs, le ministère de la Culture, depuis très longtemps, et aussi le ministère, avant s'appelait le ministère de la Culture, et de la communication, parce que finalement la moitié de son budget vient soutenir l'audiovisuel public, donc aussi avec cette vocation aussi d'avoir aussi des médias fiables sur lesquels les citoyens puissent s'appuyer pour avoir une information qui soit vérifiée, avoir finalement un espace dans lequel on diffuse le pluralisme finalement des opinions, en tout cas une volonté de le faire. Après, il peut y avoir des exceptions, des rappels à l'ordre. C'est tout le rôle de l'ARCOM, le régulateur, de le faire. Voilà, donc ça, c'est un petit peu donc le contexte dans lequel le ministère de la Culture est entré par l'éducation, médias et l'information. Et bien sûr, concrètement, donc on a un appel à projet et donc on part, comme c'est une politique qui est quand même relativement récente, on a vraiment fait appel aux acteurs engagés au niveau de la région pour qu'ils viennent nous présenter les projets qu'ils souhaitent porter. À partir de là, cet appel à projet a permis de créer des échanges avec ces porteurs de projets afin de bien comprendre ce qu'ils entendaient par éducation, médias et information. On peut se rendre compte que finalement, même s'il y a de très bonnes volontés, parfois la définition n'est pas toujours très bien saisie. On s'est également appuyé côté DRAC des autres institutions qui nous semblent, qui ont un regard très pertinent sur en matière d'éducation et d'information. On s'est appuyé sur l'école de journalisme de Tours, sur le CLEMIC, aussi sur France 3 Centre Val de Loire, avec des personnes qui justement de ces différentes institutions qui participent au comité d'experts et qui peuvent aussi, dans le cadre des échanges qu'on peut avoir avec les porteurs de projets, nourrir leurs réflexions sur leurs pratiques, tant en matière d'éducation, puisque dans l'éducation et d'information, il y a comment on s'adresse à un public et on ne s'adresse pas de la même manière à différents publics, et ensuite comment on parle des médias, du monde médiatique, comment on parle de la pratique. Et donc c'est vrai qu'on a affaire à beaucoup d'acteurs qui peuvent être très, qui sont variés, que Elodie a pu citer, qui vont les médias associatifs, les médias locaux. On aura bien sûr les médiathèques qui sont les bibliothécaires et médiathécaires qui sont aussi au cœur de ces pratiques, les professeurs documentalistes. Enfin voilà, donc il y a beaucoup de projets qui émergent de différentes personnes qui parlent bien sûr les journalistes, mais qui parlent donc d'un endroit différent, mais qui chacun apporte de par leur expertise un regard et une compétence là-dessus.
Et ce sont des financements donc qui sont apportés par la DRAC pour pouvoir soutenir ces projets d'éducation aux médias et l'information. Est-ce que ça a toujours été le cas au sein de la DRAC, ou est-ce qu'il y a eu un moment déclic dans peut-être la décennie précédente, je ne sais pas, là, j'ai pas le côté historique pour le coup.
Il y a eu un effet post.
On a l'impression qu'il y a vraiment eu un vrai déclic.
Le déclic, c'est Charlie Hebdo. C'était le début de quelque chose. Après, la politique, elle a été amplifiée. Mais c'est le déclic, il est là. On s'est rendu compte à un moment donné qu'il fallait aussi défendre la liberté de la presse, mieux la faire comprendre. Et bien sûr, après, et dans un contexte qui était celui d'une dimension nouvelle que prenaient les réseaux sociaux, ça s'est aussi un petit peu amplifié comme un enjeu aussi de politique publique.
Valérie, je me tourne vers vous pour vous questionner un peu plus sur les stratégies justement d'éducation aux médias que vous pouvez mettre en place avec les différents professeurs qui vous accompagnent au sein de l'établissement. Concrètement, l'éducation aux médias, sans tout nous dire, mais concrètement, vous, en tant que professeur documentaliste, comment est-ce que vous en emparez ? Comment est-ce que vous la mettez en place avec les élèves de votre établissement ?
Il y a différents formats, différentes possibilités. Nous, la spécificité de notre établissement, c'est qu'on a créé une option média. C'est-à-dire que c'est un enseignement optionnel qui est proposé aux élèves de 5e et de 4e, donc qui se suit sur 2 ans, à raison de 2 heures toutes les 2 semaines. Donc c'est véritablement pour nous une véritable opportunité, parce que c'est vrai que des fois on pourrait réduire. Alors il y a toujours cette fameuse semaine de la presse et des médias à l'école. Évidemment, ça donne un éclairage sur ce qui peut être fait dans les établissements. Ça peut montrer les aboutissements de projets. Mais on a envie de dire que cette semaine, c'est toute l'année. Et qu'en réalité, pour qu'il y ait une progression et qu'il y ait des impacts, ces stratégies, elles doivent être pensées de manière pérenne et puis de manière progressive. Donc ça s'inscrit dans la durée et dans le temps, et pas de manière très ponctuelle. Donc c'est ce qu'on essaye de mettre en place. Donc là, je vous ai donné l'exemple de l'option média. On travaille aussi avec des partenaires associatifs extérieurs, dont fait partie Radio Campus, mais pas que. Je pense que c'est vraiment intéressant. Et puis, c'est important aussi de ne pas faire des cours de voilà comment ça se passe. Voilà comment ça se passe quand on est journaliste. Moi, je pense que de toute façon, c'est vrai pour toute pédagogie, mais que le pur descendant, à un moment donné, ça bloque. Donc, quel est l'enjeu ? C'est de rendre aussi les élèves acteurs et actrices de cette information, d'être au cœur de cette information. Et à un moment donné, pour qu'ils puissent exercer leur esprit critique, c'est les rendre aussi, s'ils sont créateurs de contenu, s'en rendre compte à un moment donné des enjeux, des obstacles, des freins, mais aussi de ce qu'il faut activer pour que on fasse de l'info.
Oui. La frustration aussi même de l'information, c'est-à-dire quand vous menez un projet avec des élèves sur un certain temps donné, donc avec plusieurs séances, vous pouvez vraiment mettre en place quelque chose de très concret, et vous expérimentez à la fois les joies et les frustrations parfois de ne pas avoir l'invité que vous vouliez sur votre émission, de ne pas avoir l'interlocuteur que vous vouliez. Je pense que oui, ça développe peut-être pas mal de choses.
Ouais. Et puis, je voulais rajouter que la rencontre de professionnels, c'est quelque chose de très important, et que ça rejoint aussi un petit peu le parcours à venir, parce que là, on parle de l'éducation aux médias, et on parle d'un monde professionnel qui est celui des médias, mais qui recouvre tout un champ aussi de compétences professionnelles et qui peut être aussi intéressant de faire découvrir à nos élèves. Et puis je pense qu'aller à la rencontre d'eux, quand on a l'opportunité, nous on essaye de le faire tant que c'est possible, c'est toujours très intéressant.
Ouais. Élodie Cerquera, est-ce que vous pouvez aussi... je ne sais pas, vous avez dit que vous faites des interventions souvent autour de l'éducation aux médias. Ça ressemble à quoi lorsque vous faites cela ? Et avec quelle tranche d'âge vous intervenez ?
Alors, j'interviens au collège et au lycée. Alors, au collège, j'ai commencé avec des cinquièmes. Et puis au lycée jusqu'en terminale, et dans différents types d'établissements, c'est-à-dire du lycée général au lycée professionnel, en passant par le lycée agricole, donc avec toutes sortes de publics. Moi, la façon dont j'aborde les choses, déjà, c'est de leur expliquer le paysage informationnel en France. Ils ne le connaissent pas. C'est quoi la centralisation des médias, et
du monde diplomatique.
Qui possède quoi. Et alors, je rebondis même sur une carte qu'a fait Ouest France, qui est pour le coup plus facile à lire sur les les grosses fortunes de France qui détiennent les médias et ce que ça raconte de notre indépendance de presse, de liberté d'expression. C'est quoi un média indépendant? Quels sont-ils? Est-ce que c'est grave d'être détenu par Bolloré ou Arnaud? Voilà, déjà les faire réfléchir autour de ces questions-là. Leur expliquer ce qu'est notre paysage informationnel en France, en les questionnant eux aussi. Comment ils s'informent? Qu'est-ce que c'est que l'information? Enfin, c'est ça qu'on vient questionner. Moi, il me semble que la pratique de l'info, ça c'est le deuxième temps. La fabrique de l'info, c'est quand on a le temps, parce que, comme tu disais, on a un temps long, un atelier qui va durer plusieurs heures, sur plusieurs jours, et à la fin, on peut se dire, allez, maintenant, on se fait plaisir, on se fait une production. Mais moi, il ne me semble pas très pertinent de commencer avant tout par une production, parce qu'il faut aborder tous ces sujets-là avant. Alors, ce n'est pas du théorique descendant, c'est de l'échange, de l'interactivité, et puis même nous, on a besoin de savoir quelles sont leurs pratiques quand on est face à une classe. Je m'adapte à chaque public, parce qu'il n'y en a aucun qui se ressemble. Il y a des jeunes qui vont vous dire, c'est pas du tout de quoi vous nous parlez, puis d'autres qui vont être très à la pointe de l'information. Avoir des jeunes de terminale qui vont passer le bac, qui ont spécialité à GGSP, c'est histoire géo, sciences politiques, c'est pas la même chose que d'avoir des secondes pro qui préparent un métier. On n'est pas du tout sur les mêmes profils, donc déjà je m'adapte. Et puis après, si on a un temps long qui peut nous être accordé, comme grâce aux projets qui sont portés par la DRAC, on peut se projeter sur une année scolaire complète. Là, effectivement, on peut intégrer dans nos ateliers de la fabrique d'infos, qu'il s'agisse d'écrire un article, de faire une petite vidéo type brut ou décrypte, ou un podcast, pourquoi pas. Mais avant tout, il y a quand même des apports théoriques minimum, ou en tout cas des connaissances qu'il faut, il me semble, avoir.
Meng Shiv et Benoît Lasserre, est-ce que vous partagez aussi ce qu'elle vient de dire, notamment sur le temps long, le fait de faire des projets vraiment sur le temps long pour que l'éducation aux médias soit la plus efficace possible? Parce que c'est vrai que c'est bien beau de passer une heure dans une classe pour expliquer rapidement ce qu'est notre métier. C'en est une autre de pouvoir mener des projets vraiment de long terme avec des classes qui vont aboutir sur une production de qualité et qui leur ont vraiment fait réfléchir à tous les circuits de l'information.
Moi, il me semble qu'en fonction du temps que l'on accorde à une action, finalement, on va avoir une ambition qui ne va pas être la même. Ce qui veut dire que, pour répondre à votre question, je pense que je vais parler du coup de la manière, du type de projet que l'on peut amener à soutenir. On soutient, la Droite de Val de Loire soutient à la fois des projets de sensibilisation, des actions courtes, de l'ordre de 2 heures. Mais alors là, on va bien sûr être sur quelque chose de très descendant. Alors c'est quelque chose qu'on peut déployer sur un volume important de bénéficiaires. Mais par contre, est-ce que ça va changer fondamentalement les pratiques médiatiques de ces personnes? C'est un premier pas.
Et en même temps, si on fait un projet de long terme avec peut-être moins de personnes, on diffuse moins et donc il y en aura certains qui seront laissés de côté aussi.
Mais pourtant, on le fait quand même. Et d'ailleurs, on tient à avoir une proportion importante de projets au long cours, qui sont des projets, une classe média, l'intervention de Radio Campus, ça va être plusieurs dizaines d'heures sur l'année, sur un temps long. Donc avec finalement un aspect théorique, puis un aspect de pratique, donc on se met à la place d'eux, comme on a compris comment ça se passait, on est confronté aussi au métier, donc il y a d'autres dimensions qui rentrent aussi là-dessus. Et effectivement, c'est important, on accompagne aussi des résidences de journalistes qui sont dans la même veine des actions qui sont longues, et donc on essaie de trouver un panachage d'accompagnement, puisque les deux sont importants. Idéalement, on aimerait pouvoir faire que des actions au long cours, mais hélas, nos moyens sont trop limités pour pouvoir le faire, donc on panache.
On approche de la fin, mais je vais laisser la parole à Élodie qui souhaitait réagir.
Ouais, je voudrais faire quand même reposer un peu du cadre. Le CLEMI a fêté ses 40 ans, je crois que c'est l'année dernière. Donc l'EMI, ça fait 40 ans qu'on en parle. Avant, l'EMI...
C'est bien de le repréciser.
Ouais. C'est-à-dire que nous, on en parle beaucoup comme si ça venait d'émerger. C'est une super idée. Non, ça a toujours existé. La semaine de la presse, ça fait très longtemps qu'elle existe. Oui. Les journalistes allaient dans les écoles. Et effectivement, avant l'EMI, c'était « j'arrive, ma vie, mon œuvre de journaliste ». Mais depuis 2015, tout a basculé. Aujourd'hui, les journalistes, il ne suffit pas d'être journaliste pour faire l'EMI. Je le disais tout à l'heure, en fait, un journaliste n'est pas un prof. Et un prof n'est pas un journaliste. On doit travailler ensemble, déjà. Moi, il me semble... Moi, je ne vais pas raconter mon métier. Ça ne les intéresse pas. Quand je fais de l'EMI, la première chose qu'on me demande, c'est est-ce que tu connais des gens connus ? Est-ce que tu gagnes bien ta vie ? Et qu'est-ce que tu as fait comme étude ? Une fois que j'aurai raconté ça, ils s'en fichent du reste. Donc, on n'est plus là pour venir raconter nos métiers. Parce qu'en fait, un pompier, ça, c'est de la découverte métier. Il peut le faire aussi. Donc, l'EMI, ce n'est pas ça. Et effectivement, cette date de 2015 qui a tout fait basculer, aujourd'hui, on bascule dans, il ne faut quand même pas l'oublier, dans une désinformation généralisée, dangereuse. Et on a tous notre part à prendre par rapport à ça. Donc l'enjeu, il est là. Mais il y a un autre enjeu, c'est le saupoudrage. Aujourd'hui, l'EMI ne tient toujours qu'à des initiatives et des actions, ce dont on parle. Et heureusement qu'elles existent. Mais quand on se dit que c'est toujours pas complètement incrémenté dans la formation des enseignants, c'est-à-dire que les enseignants ne sont pas formés à l'EMI, tout repose sur les profs doc. À un moment donné, il faut quand même réagir. C'est que sur un lycée de 1500 élèves, quand ils sont une centaine à avoir fait l'EMI, déjà on est content. Donc on est sur du saupoudrage. Donc il faut tout reprendre dès le début, que les politiques prennent enfin le courage. Alors c'est bien de donner des fonds, des finances, le ministère de la Culture, l'Éducation nationale, ok, mais prenons le problème à la source, formons des journalistes, formons des profs et formons nos élèves.
On arrive sur la fin sur cette émission. Pardon Louise, hein, je sais que tu voulais réagir, mais il est 15h59, place désormais à notre prochaine émission spéciale Ondulation. Quelles alternatives au GAMAM pour diffuser son information ? Et puis on enchaînera ensuite après à 17h avec votre émission Turbulence. C'est le projet Ondulation, le festival Ondulation.